en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La mécanique quantique est un cercle vertueux qui lie une discipline scientifique aux bouleversements technologiques dont sont issus Internet, les ordinateurs ou encore les téléphones portables. De Thomas Young au 19e siècle aux potentielles applications des terahertz aujourd'hui, Emmanuel Rosenscher revient sur les prémices de la mécanique quantique et ses applications actuelles. Emmanuel Rosenscher est directeur scientifique de la branche physique à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA. Sa communication avait lieu dans le cadre des conférences inaugurales de l'École nationale des ponts et chaussées à la rentrée 2009, école des ponts à laquelle Canal Académie s'est associée. Emmanuel Rosenscher.
Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un cercle vertueux. Dieu sait que les cercles vertueux sont rares de nos jours, mais celui-là est tout à fait exceptionnel. C'est celui qui couple une discipline scientifique, la mécanique quantique, discipline extrêmement élégante, extrêmement belle, ceux qui en font sont sensibles à la beauté de ce formalisme, extrêmement puissante et prédictive, on le verra tout à l'heure, parfois aussi ésotérique. Donc d'un côté, cette science si abstraite, et d'autre part, les bouleversements technologiques qui en sont issus, qui a changé notre vie de tous les jours, par l'Internet, par les ordinateurs, par les téléphones portables, et qui vont continuer encore durablement à bouleverser notre société. Alors, on va commencer sans plus attendre, et d'une façon relativement arbitraire, j'ai situé le début de cette aventure intellectuelle, donc vous allez voir qui est absolument fascinante, au début du XIXe siècle. On pourrait la faire remonter dès que l'homme a commencé à s'intéresser à la nature de la lumière, dès le tout début des Grecs, on a commencé, déjà même des Égyptiens, on a déjà commencé, le débat quantique était déjà lancé. Mais de façon relativement arbitraire, je vais commencer au moment de l'effet photoélectrique. C'est vraiment là le nœud gordien qui va donner naissance à la mécanique quantique. Alors, ça commence un peu mezzo voce. 1803, un vétérinaire anglais, Thomas Young, fait une expérience qui va changer fondamentalement la vision qu'on avait des choses. Depuis Newton, tout le monde acceptait, surtout parce que c'est Newton qui le disait, donc dès que Newton disait quelque chose, c'était la vérité établie, qui va remettre en question la nature corpusculaire de la lumière. Il fait une expérience toute bête, hein, qui est de prendre une source lumineuse, de faire passer le faisceau lumineux qui en est issu à travers une fente, réalisant ainsi une source relativement ponctuelle. Ensuite, il fait passer ce faisceau lumineux à travers un deuxième écran, percé de deux trous, hein, relativement proches les uns des autres, et il va regarder l'image projetée de cette source lumineuse à travers ces deux fentes sur un écran. Maintenant, on le ferait avec des cellules photoélectriques ou avec une plaque photographique. Alors, ce qu'il s'aperçoit, c'est qu'il observe des franges périodiques, noires et claires, qui clairement ne pouvaient pas s'expliquer par un formalisme corpusculaire. On y reviendra tout à l'heure. Clairement, on avait là affaire à un phénomène ondulatoire, comme il est facile de se l'imaginer. Alors, il va en déduire une chose qui va donc bouleverser l'image que l'on avait de la lumière à cette époque, c'est que la lumière était une onde. Et donc, l'idée était simple, l'onde était émise par cette fente qui est ici, et en passant par les deux fentes, en utilisant le principe de Huygens qu'on avait développé pour la mécanique, eh bien, il y avait une onde qui était émise par la fente 1, une onde qui était émise par la fente 2, et ces interférences étaient dues à ces deux ondes. S'ajoute, et Thomas Young a fait un petit oubli, cet oubli, Augustin Fresnel va le remplir, c'est qu'il y a une chose extrêmement importante, c'est que ces champs électriques s'ajoutent. C'est bien beau d'avoir deux ondes, mais elles s'ajoutent. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'elles forment un espace vectoriel. D'accord ? Et c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Et c'est parce que ces ondes forment un espace vectoriel qu'elles s'ajoutent et qu'elles forment cette figure d'interférence. Alors, comme votre œil, la plaque photographique, la caméra CCD que vous avez dans votre téléphone portable sont des détecteurs quadratiques, ils détectent le carré des champs électriques, ils détectent des intensités, eh bien, Augustin Fresnel a tôt fait d'expliquer que ces interférences sont dues à ces termes quadratiques, dus à l'additivité des champs électriques. J'insiste sur ce terme d'additivité des champs électriques. Et voilà, le 19e siècle passe, avec des immenses génies comme Rayleigh, comme Maxwell, et tout d'un coup, et Fresnel, évidemment, qui continuent à développer la nature ondulatoire de la lumière. Le 19e siècle se termine avec une science triomphante, et il y a deux petits cailloux dans la chaussure, pas très importants, qui empêchent quand même certains très rares physiciens visionnaires de s'adonner au plaisir d'avoir une science complète. La première, le premier caillou dans la chaussure de droite, c'est une manip faite par Rudolf Heinrich Hertz, l'homme qui a découvert les ondes hertziennes, avec son élève Philippe von Lennart. C'est une manip très simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend deux plaques métalliques, il les met dans une enceinte à vide, il applique une tension et il regarde le courant qui passe à travers ce dispositif très rudimentaire. Alors évidemment, si, comme c'est le vide ne transporte pas l'électricité, rien ne passe en l'état. Il a alors une idée absolument géniale. Rappelez-vous que Hertz était un grand génie. Il éclaire une des plaques avec des ondes rouges. Et il a beau éclairer cette plaque avec des puissances extrêmement importantes, aucun courant ne passe, aussi puissante que soit la lampe. Et puis, à un moment, il décide d'envoyer un peu de lumière bleue, et là, il s'aperçoit qu'en envoyant des quantités infinitésimales de lumière bleue, le courant se mettait à passer. Alors ça, c'était vraiment difficile à expliquer avec une théorie ondulatoire. Et Rudolf Heinrich Hertz écrit: il semble y avoir un rapport entre l'énergie des électrons qui sont émis et la fréquence de la lumière excitatrice. Alors en effet, ce que faisait Heinrich Hertz, c'est qu'il mesurait l'énergie des électrons qui étaient émis, c'était relativement facile à faire. Il s'apercevait en plus que plus la longueur d'onde de la lumière était vers le bleu, une petite longueur d'onde, eh bien plus l'énergie des électrons qui sortaient était élevée, ce qui était quand même quelque chose de très très étrange. Premier caillou dans la chaussure. Deuxième caillou dans la chaussure, plus ésotérique, vers les années 1890-95, les savants, notamment Rayleigh, Maxwell, s'intéressent à la lumière émise par les corps chauffés. Prenez un morceau de métal, vous le chauffez, il émet de la lumière. Et ils se posent la question de savoir quelle est la répartition spectrale, c'est-à-dire quelle est l'énergie émise par ces corps noirs en fonction de la longueur d'onde. Et alors, on a ces figures célèbres, hein, de la répartition qu'on appelle le spectre du corps noir, et les théoriciens à l'époque, utilisant les théories mécaniques, puisque la lumière était ondulatoire, elle était soumise à des théories mécaniques, eh bien, en utilisant des théories mécaniques, ils se disaient, plus la lumière a une longueur d'onde faible, plus on peut empaqueter d'onde dans un volume, et plus normalement la densité de lumière devait être importante, et donc normalement, au lieu d'avoir cet écroulement de la puissance lumineuse à faible longueur d'onde, on devrait avoir continué à augmenter, ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Ça a empêché de dormir une demi-génération, voire une génération de physiciens, jusqu'à ce que Max Planck, en décembre 1900, sauve les apparences. Il dit « je ne comprends pas, mais pour arriver à comprendre cet effet, je dois admettre que la lumière est faite d'excitation. » Le terme corpuscule n'est pas encore là, on n'ose pas. La lumière est faite d'excitation et chaque excitation individuelle a une énergie bien déterminée, ce qu'ils appellent le quantum d'énergie. C'est-à-dire que la lumière arrive en paquet d'énergie, dont l'énergie de chaque paquet est le produit de la fréquence, à l'inverse de la longueur d'onde, par une constante, et en fitant, comme on dit, c'est-à-dire en calant ces théories sur les résultats expérimentaux, ben, ils trouvent une valeur, donc H, qu'on appelle la constante de Planck, qui est en joules par joule seconde, extrêmement faible, 10^34. On est à l'époque de ce qu'on appelle la physique microscopique, on n'a pas encore inventé le terme quantique. Mais pour l'instant, pas question de photons. Fin du 19e siècle, Lord Rayleigh, dans une célèbre conférence de clôture du siècle, dit « toute la physique est établie, il n'y a que deux effets mineurs qui restent à comprendre, le spectre du corps noir et l'effet photoélectrique ». Il avait du nez, ce brave homme, sauf que ce n'était pas mineur. Arrive ici un des plus grands génies de l'humanité, Albert Einstein, qui va sentir que les deux effets sont les mêmes. Il faut du culot. L'effet photoélectrique, courant qui traverse un œuf dans le vide, et le spectre du corps noir. Nom de Dieu, quel rapport peut-il bien y avoir entre les deux? Et Albert Einstein dit « ceci prouve la nature ondulatoire de la lumière ». Alors quelle est son idée? L'idée est la suivante. L'idée, c'est que les électrons, dans le, ce que vous voyez ici, c'est un diagramme, on voit l'énergie des électrons en fonction de la position. Là, vous avez le métal, excusez-moi, là, vous avez le métal et là, vous avez le vide. Et Einstein dit, les électrons dans le métal, ben, ils sont piégés dans le métal hein, par le potentiel d'oxydation. Ils sont piégés, sinon ils partiraient dans le vide. Donc ils sont piégés par le potentiel d'oxydation. Et il y a une barrière de potentiel entre les électrons du métal et le vide, qui fait 3, 4 électronvolts. D'accord ? Et ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si en fait les quantums d'énergie de Max Planck sont des particules, ce qui se passe, c'est que les particules collisionnent, ces corpuscules qu'on appellera plus tard les photons, collisionnent les électrons qui sont dans le métal et promeuvent les électrons de leur niveau fondamental où ils étaient dans le métal à des énergies supérieures. Si, et cette énergie donnée par le produit de la fréquence des, comme l'avait trouvé Planck, la fréquence de la lumière par la constante de Planck. Alors tout l'effet photoélectrique s'explique bien, c'est-à-dire que même si vous avez une quantité absolument considérable de photons qui ont une fréquence f qui est trop faible pour que hf soit inférieur au travail de sortie, d'oxydation du métal, eh bien il ne se passera rien, alors que le moindre filet de lumière bleue, les photons, excusez-moi, c'est pas lui qui a appelé ça le photon, c'est un chimiste qui a appelé Lewis qui a appelé ça les photons, mais on est entre nous, on va tout de suite appeler ça des photons, les photons vont avoir assez d'énergie pour le céder à des électrons et les envoyer dans le vide. Et Einstein a ceci de particulier, c'est qu'il n'a pas peur de la réalité, il dit, il y a une façon très simple de voir ça. Vous allez mesurer l'énergie des électrons émis dans le vide en fonction de la fréquence. Et moi, je vous parie que vous trouvez H, la constante de Planck. C'est gonflé. L'effet photoélectrique, c'est un courant dans le vide. Et H, c'est quelque chose qui a été déduit du spectre du corps noir. Ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle une petite prévision. D'accord ? Il demande aux expérimentalistes de faire la manip, personne ne le croit. D'abord parce que la manip est très difficile, et puis remettre en cause la nature ondulatoire de la lumière, c'était pas le bon moment, quoi, parce que l'optique maxwellienne, la lumière maxwellienne, triomphait à l'époque. Alors il y a quand même un type très honnête qui s'appelle Millikan aux États-Unis qui est persuadé qu'Albert Einstein a tort et qui va passer 12 ans de sa vie à prouver qu'il a tort, parce que la manip est difficile. Et au bout de 12 ans, ben, qu'est-ce qu'il doit admettre ? Ce que vous voyez ici, c'est l'énergie des électrons en fonction de la fréquence de la lumière. Et bien, il s'aperçoit qu'effectivement, il y a une relation linéaire entre l'énergie des électrons émis dans le vide et la fréquence. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve H à 3 décimales près. Donc, la mécanique quantique vient de naître. C'est probablement l'une des aventures, ce pari d'Einstein et de la réponse de Millikan est probablement une des aventures scientifiques les plus époustouflantes qui soient. Ceci est la traduction, a été faite par la main de Louis de Broglie dans une traduction française. Bon, alors, juste un petit mot, hein, ça vous le connaissez tous, hein, la correspondance qu'il y a entre l'énergie des photons et la longueur d'onde. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est évidemment ce qu'il y a dans le visible, hein, ce qui est détecté par les CCD de vos téléphones portables, par exemple, qui sont typiquement entre 0,5 microns et 0,7 microns, c'est-à-dire des énergies de photons qui sont comprises entre 1,5 et 3 électronvolts, ce qui tombe bien, parce que 1,5 et 3 électronvolts, c'est juste ce que peut produire une pile à alcaline. Bon, juste un point quand même, c'est que l'une des conséquences de la découverte de Hertz, c'est qu'elle va tout de suite être utilisée pour faire les cellules photoélectriques de l'époque, et le premier objet quantique, c'est donc cette triode de Lee De Forest, qui a été une énorme industrie, qui a été à l'origine de la première télévision, des premières caméras. Donc, en quelque sorte, la cellule photoélectrique, non contente d'avoir révolutionné la physique fondamentale, eh bien, devenait un objet de très grande consommation, que je serais tenté d'appeler le premier composant quantique. Maintenant qu'on a mis en place la tragédie grecque, qui se termine bien, de la naissance de la mécanique quantique, bon, on va regarder un petit peu comment on voit les choses à l'heure actuelle. Et surtout, je vais vous donner un certain nombre de briques de base qui vont nous permettre de comprendre quel a été l'impact de cette mécanique quantique sur votre vie, de ce que vous avez dans votre poche. Alors d'abord, un petit retour sur la mécanique quantique. Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on comprend bien ces franges d'interférence. Ces franges d'interférence, maintenant, on le sait bien, viennent du fait que la lumière est une onde et que les ondes occupent un espace vectoriel. Elles s'ajoutent. Maintenant, on vient nous dire que ce sont des corpuscules. Alors, c'est des corpuscules, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un canon qui tire, et bon, qui tire à travers ce truc-là, il tire à travers deux fentes. Qu'est-ce qui peut normalement arriver ? Bon, normalement, ça doit faire deux impacts. Bon, il y a des petits phénomènes, ça se baigne sur les côtés, mais on s'attendrait donc à avoir deux impacts, mais certainement pas des interférences. Donc le problème est de savoir comment rendre compatible cette vision corpusculaire où, a priori, on doit avoir la projection, finalement, du canon à travers les deux fentes et non pas des interférences. Alors, jusqu'ici, ça n'excitait pas trop les gens parce que les gens disaient « Bon, c'est de la lumière, ça pèse pas lourd, c'est pas grave, on y arrivera. » On y arrivera, sauf qu'il y a quelqu'un qui va débouler dans l'affaire et qui va mettre alors là le monde à feu et à sang, c'est Louis de Broglie. Louis de Broglie, par un raisonnement purement d'historien, il fait une thèse d'histoire des sciences. Par un raisonnement purement historien, mais c'est un très très bon mathématicien, donc très vite il formalise en termes mathématiques ce qu'il a, il se dit, ok, on vient de nous dire que finalement la lumière ça pouvait être des corpuscules, ça pouvait être des ondes, mais que c'est pas bien grave. Mais moi ce que je pense, c'est que la matière... c'est et en même temps des particules et en même temps des ondes. C'est une démarche d'historien. Il ne s'arrête pas là. Il se dit, si ce que je dis est vrai, ça doit respecter la mécanique relativiste qu'Einstein vient de découvrir, donc il fait des calculs. Et il arrive à la conclusion suivante, c'est que, encore une fois, il n'y a aucun support expérimental. Il dit, bien, si mon intuition est vraie, si la relativité est exacte, eh bien, les particules, comme les électrons, sont associés aussi à ces corpuscules des ondes, et ces ondes, hein, que je vais représenter ici, sont d'autant plus, alors je vais vous donner l'équation de Lebreuil, qui relie l'énergie des particules à leur masse, à leur longueur d'onde, donc ceci permet de calculer la longueur d'onde de votre particule en fonction de leur énergie, en fonction de leur masse. Alors évidemment, je vous rappelle que H, c'est fondamental, H est tout petit, 10^-34, à l'époque on appelait ça la physique microscopique, hein. Il se dit, bien, ma foi, aux électrons est associée une longueur d'onde, et cette longueur d'onde est fonction de leur énergie, de leur masse. Il écrit ça en 1900, alors je crois que c'est 1900, début des années 1920, quelque chose dans ce genre-là. C'est traduit en anglais, en 6 mois au Bell Labs, le grand laboratoire des téléphones américains, la manip est faite, première manip, et on constate qu'effectivement, les électrons sont diffractés sur les réseaux des cristaux. Donc, et que la relation de Broglie est vérifiée. Alors là, c'est vraiment une catastrophe. Parce que la lumière, ça va, on sait que c'est un peu bizarre, mais la matière a un comportement ondulatoire de la matière. Alors là, on est très très grave dans les problèmes, et on se retrouve avec l'évidence que les corpuscules sont décrites par des ondes, et maintenant, il faut d'une part formaliser tout cela de façon un petit peu plus sérieuse, et surtout d'avoir une image intellectuelle. Les physiciens n'écrivent pas des équations à longueur de temps, ça serait d'ailleurs totalement inutile, stérile. Ils ont des images intellectuelles. Quelle image intellectuelle peut-on avoir? Alors, il y a eu des batailles homériques entre, par exemple, l'équipe de Louis de Broglie qui essayait de voir les variables cachées. À l'heure actuelle, il semble que l'interprétation de Copenhague, ce qui est maintenant bien établi depuis une quarantaine d'années, reste, en tout cas, la façon la moins stérile et certainement la plus fertile de voir les choses. Alors, il s'agit de quoi? Mais il s'agit de dire, voilà, votre canon, là, il envoie des ondes particules, il y a dualité, hein, c'est ni l'un ni l'autre, c'est dual. Et c'est décrit par quoi? Eh bien, on va reprendre l'approche de Fresnel, c'est-à-dire on va passer dans un monde totalement abstrait. Au début, je vous assure, ça fait un choc. Hein, pour comprendre les choses, on est obligé de passer dans des espaces vectoriels, utiliser des produits tensoriels ou des produits scalaires pour comprendre une réalité aussi matérielle qu'un électron, ça peut paraître étonnant. Mais voilà, une particule est définie par une fonction d'onde psi, premier élément. Le plus important, évidemment, c'est que ces états forment un espace vectoriel. Attendez, je dis ça comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte que je viens de dire une énormité. Ça veut dire quoi? L'électron, là, dans l'état psi 1, il passe dans le trou 1, dans l'état psi 2, il passe dans le trou 2. Je vois bien ce que c'est, je passe où dans le trou 1, ou je passe où dans le trou 2. Mais je passe dans le trou 1 plus je passe dans le trou 2 divisé par racine de 2. Qu'est-ce que c'est bien que ce truc-là? Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, la particule passe par les deux fentes en même temps. C'est le bon vieux paradoxe, mais vérifié tellement de fois que, voilà, il faut admettre que la nature se comporte comme ça. Et, alors, il restait à interpréter ce psi, parce que, ok, tout allait bien, mais qu'est-ce que c'est que ce psi? Alors, l'école de Copenhague a donné une solution qui est probablement admise quasiment par tout le monde. La norme au carré de cette fonction d'onde, c'est la probabilité de trouver la particule dans l'état psi. Psi au carré, c'est la probabilité de trouver la particule ou en 1 ou en 2. Et à partir de là, ben, ma foi, si on ne se pose pas trop de questions, ben, tout se déroule bien. On a psi donné par l'équation de Louis de Broglie ou donné par l'équation de Schrödinger. Et puis on dit ben, que, par exemple, si je veux calculer la probabilité de répartition de l'état psi sur l'écran, et ben, je vais devoir mesurer la norme au carré de psi 1 plus psi 2, puisque je vous rappelle que l'état, c'est je passe par la fente 1 plus je passe par l'état 2. Okay, j'insiste. Et puis, ben, ma foi, roulez jeunesse, ça va nous donner des ternes en psi 1 au carré, c'est ce que vous auriez si le trou 2 était fermé. Ça va vous donner psi 2 au carré, c'est ce que vous obteniez si le trou 1 était fermé. Là, on est dans la mécanique classique. Et puis, l'horreur de l'horreur, ce produit scalaire qui décrit le fait que la particule passe par la fente 1 et la fente 2 en même temps. Alors, encore une fois, la nature vous dit que c'est comme ça que ça se passe. Alors, ben, de temps en temps, je peux vous assurer, c'est... Ça pose des questions. Mais, comme vous allez le voir, l'explosion de la microélectronique, de l'optoélectronique, d'Internet, nous dit en tout cas, et des stock options, nous dit que c'est vrai. D'accord ? Alors, ce n'est pas un sport de tout repos. Je vais vous donner qu'un exemple, mais un qui est particulièrement ardu à avaler. Vous le connaissez sûrement, c'est le chat de Schrödinger. Alors, l'expérience de chat de Schrödinger est extrêmement cruelle, elle n'a jamais été faite, je vous rassure. Vous avez une source à un photon ou à un électron, et puis cet électron, vous savez, on se met en classique. Il passe ou bien par la fente du dessus, ou bien par la fente du dessous. S'il passe par la fente du dessus, il va arriver sur un compteur de photons, on va supposer que c'est un photon, il va mettre, ici il y a une cellule photoélectrique, pof, le marteau va tomber, il va casser une cellule de cyanure, et va tuer le chat. D'accord ? Et puis en revanche, hein, c'est l'état 1, chat mort. Mais il y a aussi... un état chat 2, c'est-à-dire que le photon passe par la fente numéro 2 et le chat est toujours vivant. Qu'est-ce que vous dit la mécanique quantique ? La mécanique quantique vous dit que tant que vous n'avez pas regardé à l'intérieur de la boîte, c'est ce qu'on appelle le postulat de la mesure, le chat est dans l'état chat vivant plus chat mort sur racine de 2. C'est dur à avaler, l'expérience est cruelle, probablement interdite par toutes les conventions, et de toute façon est extrêmement difficile à faire, puisque se pose la question de savoir ce que c'est que de préparer un état à un photon. Donc, la difficulté est là, mais je vous assure que des gens par exemple Serge Haroche, à l'École normale supérieure, commencent déjà à faire des manips qui ressemblent à des manips de chat Schrödinger. C'est pas avec des chats, c'est avec des atomes d'hélium dans des états de Rydberg, je vous rassure, c'est moins cruel, mais on commence à titiller ces états étranges que sont ces états chat vivant plus chat mort sur racine de 2. Revenons donc à la direction que je veux donner à ce séminaire, qui est, ok, nous avons ici une science issue des hypothèses et du travail intellectuel probablement des plus grands génies de l'humanité, extrêmement abstrait, et néanmoins, vous allez voir que ça va provoquer une révolution sociale, une des plus grandes révolutions sociales de l'histoire de l'homme. J'ai mis en exergue trois acteurs extrêmement importants, il y en a d'autres, hein, mais on n'avait pas tellement le temps, qui sont donc Félix Bloch, Zeitz et Wigner, Eugène Wigner, je ne me rappelle plus le prénom de Zeitz, Frédéric Zeitz, qui se disent la chose suivante, ils disent ok, les électrons sont des ondes, on ne comprend pas, mais ce sont des ondes, elles ont et associées à ces électrons, il y a une certaine longueur d'onde. Et ils se disent... eh bien, qu'est-ce qui se passe si ces électrons se déplacent dans un matériau cristallin ? Alors, dans un matériau cristallin, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la distance entre les atomes, donc vous savez ce que c'est qu'un cristal, une structure périodique matérielle, et ce qu'ils disent, c'est quelle est la distance typique entre deux atomes ? Eh bien, la distance typique entre deux atomes, c'est quelques angstroms, hein, et quelques dixièmes de nanomètres pour être en SI. Et il se dit, mais quelle est la longueur d'onde d'un électron ? Un électron dans la matière, ça a quoi comme énergie ? Bon, donc mais quelle est la longueur d'onde d'un électron à 4 électronvolts ? Ben, je vous le donne en 1000, c'est justement quelques angstroms. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si l'électron a une énergie relativement faible, si l'énergie à l'électron et sa longueur d'onde est grande, elle est très grande devant la distance entre les atomes, et il ne va y avoir aucun phénomène de résonance, l'onde va passer tranquillement à des petits détails près. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passe si l'énergie des électrons est telle que leur longueur d'onde est de l'ordre de la distance entre les atomes, ben, il va y avoir un phénomène de résonance. Ce qu'on appelle des miroirs de Bragg, c'est-à-dire que l'onde va pénétrer, va résonner avec le cristal et va être réfléchie. Donc l'électron ne va pas pouvoir se déplacer. Donc il doit donc y avoir des bandes d'énergie permises et des bandes d'énergie interdites, dont l'existence est intimement liée au fait que les électrons sont des ondes dans la matière. Alors ça, ce paradigme, ça va ouvrir toutes. On va le voir maintenant, c'est vraiment notre point de base pour notre excursion future, notre camp de base pour nos excursions futures. Cette théorie des bandes d'énergie est à l'origine de tous les composants électroniques possibles, imaginables, que vous avez sur votre bureau ou dans votre poche. Donc, et qui est lié, encore une fois, fondamentalement à l'aspect ondulatoire de ces ondes et ces résonances entre ces ondes et la structure cristalline. Alors, il manque quelques petits génies derrière. Pour bien comprendre ce qui va se passer, le dernier point un peu qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, on se demandait pourquoi il y a des isolants, pourquoi il y a des métaux, pourquoi le verre laisse passer la lumière et pourquoi les métaux réfléchissent la lumière. Et c'était pas un mince problème. Alors, à partir de cette trouvaille, on va voir apparaître un autre grand génie, une sale bête, qui s'appelait Wolfgang Pauli, grand génie. Qui fait la remarque suivante. Il dit, bon alors, les électrons, où est-ce qu'ils vont se mettre dans cette structure de bande? Vous savez, les électrons, c'est comme vous, c'est paresseux. Ça se met dans l'état de plus basse énergie. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis, en tout cas. Donc, ils vont remplir, a priori, les bandes d'énergie les plus faibles. Et donc, a priori, ils vont remplir ces bandes-là et pas remplir les bandes supérieures. Alors, s'ils font ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que tous ces états-là sont remplis d'électrons. Ça, c'est vide. C'est interdit, cette bande est interdite aux électrons, et puis ici vous avez une autre bande permise, et ici vous avez un gap d'énergie infranchissable par les électrons. Alors, c'est là où on voit les concepts, en très peu de temps, vous avez tous les concepts de la mécanique quantique qui vous tombent dessus, et celui-là est particulièrement ardu, c'est celui donc des états quantiques et du principe de Pauli. Pauli dit un électron ne peut occuper qu'un état quantique, un peu de choses près. Ça veut dire quoi? Il faut imaginer que la bande de valence, elle est remplie d'électrons et il n'y a pas de place libre. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un taquin? Un taquin, c'était ces jeux, mais c'était des petits carrés dans lesquels il y avait des petits plots de plastique et puis vous faisiez bouger, il y avait une place de libre et en faisant bouger les... D'accord, et vous deviez reconstituer une sorte de puzzle. Vous connaissez maintenant? Qui ne connaît pas les taquins? Voilà, donc vous connaissez tous les taquins. Donc vous imaginez que vous avez un taquin sans place vide. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, d'accord? En revanche, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, vous envoyez de la lumière sur votre matériau? Si vous envoyez de la lumière sur votre matériau, qu'est-ce qu'Albert Einstein vous dit? Eh bien, la lumière, c'est des photons. Ces photons vont céder leur énergie à ces états ici, vont prendre les électrons qui sont ici et vont les envoyer dans la bande de conduction. Et maintenant, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre taquin, vous avez deux taquins maintenant, un taquin qui est quasiment vide, donc les électrons se déplacent sans aucun problème, et un taquin où il y a quelques places de libre. Et donc vous allez pouvoir jouer au taquin et faire bouger vos électrons là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer avec une bande de valence auquel on a enlevé des électrons? Eh bien, elles vont se comporter comme des charges positives. Le manque d'électrons est une particule par elle-même. Et on va comprendre les angoisses de Faraday qui avait découvert qu'il y avait des particules positives qui se déplaçaient dans la matière, ce qui était juste pas possible. En fait, ce ne sont pas des particules positives qui se déplacent, ce sont des manques de particules négatives qui se comportent comme des particules qu'on appelle des trous. Donc, électrons et trous, voilà les deux ingrédients dont nous avions besoin pour aller maintenant un tout petit peu plus loin. Cette absence d'électrons est une particule, ce qu'on appelle une quasi-particule, avec des tas de propriétés étranges, tellement charge positive, masse bizarre, mais c'est pas grave. Mais quand vous y réfléchissez bien, une bulle qui monte dans un verre de champagne, c'est pas très différent. Bon, alors, on a, juste pour résumer, tous nos ingrédients, une bande de conduction, une bande de valence, les électrons, alors regardez bien, les photons, alors je dis plus qu'ils prennent des électrons dans la bande des valences et l'entraînent dans la bande de conduction, je dis elles créent une paire électron-trou. Donc ça, c'est l'absorption de photons, ce sont votre caméra CCD, c'est votre téléphone portable, enfin c'est tout ce que vous pouvez avoir pour faire des images. Et le contraire, évidemment, un électron et un trou peuvent se recombiner, évidemment, ils vont redonner naissance à un photon, c'est le zapette, c'est les lasers, on va voir tout ça. Vous avez deux ingrédients de l'optoélectronique. On a quasiment fini en ce qui concerne la première révolution. Je vais vous parler maintenant de la révolution de la microélectronique et vous montrer comment cette révolution est un miracle annoncé. C'est une histoire assez intéressante. Alors pour cela, j'ai besoin de quelques petites choses. J'ai besoin du dopage et de la zone de charge espace, et on en aura terminé pour que vous compreniez bien comment est née la microélectronique. La microélectronique, elle naît dans les années 30 à peu près, où donc Bloch commence à faire la théorie des bandes des semi-conducteurs. Et à l'époque, les gens se posent la question de savoir mais qu'est-ce qui circule dans les semi-conducteurs. Parce qu'à priori, les semi-conducteurs, vous venez de voir, il n'y a pas d'électrons. Hein, la bande de valence est pleine. Je peux vous assurer, un semi-conducteur brut de sillage, c'est du bois, ça ne sert à rien. À l'époque, les gens commençaient à se dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez ici le tableau de Mendeleïev, avec ici le silicium, le carbone, le silicium avec ses 4 électrons sur sa bande de valence, le carbone aussi. Et puis, j'ai mis 2 copains au carbone et au silicium, le bore et le phosphore. Le phosphore a 5 électrons, le bore en a 3. Qu'est-ce qui se passe si je mets, par exemple, du phosphore dans du silicium? Les atomes dans les cristaux, c'est comme les copains dans une cour d'école. Ils veulent tous avoir le même Eastpak, ils veulent tous avoir la même PlayStation, ils veulent tous être pareils. Le pauvre phosphore, qui a 5 bras, il veut absolument avoir 4 bras comme tous ses copains. Donc, il donne ses 4 bras à ses copains, il en a un en plus. Ce bras, c'est un électron supplémentaire qu'il cède au cristal. Vous avez donné cet électron dont le cristal avait si besoin, je répète, un semi-conducteur sans électron supplémentaire, c'est un bout de bois. Et donc, il cède cet électron, et enfin, l'électron, le matériau, va pouvoir conduire l'électricité. Il n'y a pas beaucoup d'électrons, hein. Ça s'appelle un semi-conducteur. Ça veut dire qu'il ne conduit pas très bien. Bon, néanmoins, on sait lui donner un électron. Même chose, le bore, pareil, pauvre petit camarade, il n'a pas beaucoup d'argent pour aller à la cantine, il n'a que 3 bras, ses copains sont sympas, ça ne se passe pas souvent comme ça dans les cours d'école. Le silicium lui file un bras supplémentaire, il en a 4, il manque un bras, il manque un électron, vous avez un manque d'électrons, vous avez donc un trou. Donc vous avez 2 P, de type P. Alors ça va être la clé à molette de la microélectronique. Imaginez maintenant, découverte par... Alors, il manque des gens qui étaient sur mon truc initial. C'était découvert par Paul au Bell Labs en 1939. Vous mettrez un semi-conducteur de PN et un semi-conducteur de PP l'un sur les autres, les uns sur les autres. Alors, ça a été découvert par Paul en 39, hein, mais dès 1930, les gens savent qu'ils vont faire ça. Et vous allez voir pourquoi ils veulent tous faire ça. On met donc le semi-conducteur, alors vous voyez ici le phosphore avec son électron supplémentaire qui est maintenant libre de se déplacer, hein, puisqu'il a été donné par le phosphore au cristal. Vous avez ici le bore qui lui a emprunté un électron, donc qui a donné un trou au cristal. Les ions sont immobiles, les électrons et les trous bougent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se recombinent. Ils se recombinent, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une zone où il n'y a ni électron ni trou. Ok, so what? So what? Cette zone déplétée, elle fait entre 0,1 micron et 1 micron. Dès que les gens découvrent ça, 1930, Schottky et Mott, dès que les gens découvrent ça, ils se disent, mais alors, on est capable de contrôler le nombre des électrons dans la matière. On est capable de dépléter complètement la matière. Sur 1 micron, voire moins. Eh bien, ne vous laissez pas raconter que la microélectronique est née du hasard. La microélectronique est née de savants, Schottky et Mott, qui, à partir de cette image mentale, ont dit, eh bien, on va être capable de faire ce qu'ils appelaient à l'époque une valve solide. On appelait ça des valves, hein, c'était les gros machins. Une vanne ou une valve solide. L'idée, donc, est évidente. C'est que vous avez un semi-conducteur, par exemple, d'OPN. Vous avez une zone désertée. Vous voyez bien qu'en jouant sur cette zone désertée, eh bien, vous allez être capable de moduler le flot d'électrons dans cette zone-là. Et vous savez que vous savez le faire sur 0,1 micron à 1 micron. La microélectronique est née à cet instant-là. Alors, on va mettre du temps pour le faire. On va mettre du temps et beaucoup d'argent. Et notamment, il fallait purifier un semi-conducteur. On a commencé par le germanium. Wrong guess. Il a fallu purifier le germanium. Les efforts américains, en prévision de la guerre, pour purifier le germanium, a coûté 2 fois tous les projets Apollo réunis. Comme quoi, non seulement c'est une chronique de révolution avancée, mais et les industriels et les États avaient commencé la course. Alors voilà, vous connaissez tous, j'imagine beaucoup d'entre vous, cette image célèbre qui a été jouée, qui a été recomposée des années après. Donc ça, c'est, ça pour le coup, c'est le vrai. C'est le bulletin de naissance de la révolution de l'informatique et de l'électronique en 1947. La découverte donc de l'effet transistor, qui n'est pas une découverte, la mise en évidence de l'effet transistor, qui est que tout le monde cherchait depuis 1930. Grâce à la purification du germanium, grâce à des immenses génies comme ce salopard de Shockley ou John Bardeen, seul homme ayant eu deux fois le prix Nobel, montre l'effet transistor qui était attendu dans le germanium et donc pose pour la photo. Ils vont se déchirer après, évidemment, pour les droits de brevet. Bon, alors, c'est un autre cercle vertueux, celui de la microélectronique, que je n'aurai pas le temps sur lequel je n'aurai pas le temps d'entrer. Mais voici 1947, le premier transistor en germanium. 1958, le premier circuit intégré, Jack Kilby, qui a eu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps. 2005, des circuits à 1 milliard de transistors, c'est toujours la même technologie qui a ces cercles, un autre cercle vertueux dans lequel je n'aurai pas le temps d'entrer, de diminution de taille. Ça, c'est juste pour vous dire où est-ce qu'on en est, hein, le nombre de transistors en fonction du temps. Hein, 2010, on sera à 10 milliards de transistors. Pour vous donner un exemple, on sera probablement capable de faire des traducteurs, ça fait partie des feuilles de route, hein, des traducteurs toutes langues dans une branche de lunettes. Ça vous donne un peu ce que seront les microprocesseurs de 2015. Voilà, donc on va quitter la microélectronique. Et on va passer maintenant à une... Alors, je n'ai pas besoin de vous raconter la révolution de la microélectronique. Vous avez tous votre ordinateur, vous savez, les télévisions, enfin, les progrès extraordinaires de la miniaturisation, vos iPods, vos nanopods. On va passer à un autre, qui, encore une fois, tout cela est issu directement des travaux de la mécanique quantique. Il y a une filiation Planck, Einstein, Pohl, donc, qui était l'un des Schottky et Mott qui ont découvert la zone de charge d'espace, jusqu'à Schottky. C'est une filiation qu'on peut suivre avec précision. On va passer à une deuxième filiation qui va donner Internet, qui est celle de l'optoélectronique. Bon, alors, maintenant, vous voyez bien sur quel principe est fondée votre caméra CCD. Votre caméra CCD, c'est du silicium faiblement dopé, donc avec une bande de valence quasiment vide de trous, avec une bande de conduction quasiment vide d'électrons, et un gap qu'il faut franchir au photon. Donc ici, vous n'avez pas de trous, ici, vous n'avez pas d'électrons, rien ne passe, votre système ne détecte rien. Et évidemment, s'il y a un photon issu du Soleil qui arrive sur la structure, eh bien, il va créer des paires électrons-trous. Ces paires électrons-trous vont être détectées, déplacées par des transistors, et c'est ce qui est à l'origine des images. Alors, comment ça marche ? Dans le détail, vous reconnaissez votre copain, la jonction PN, ici de PN, de PP, ici donc la zone de charge d'espace dans laquelle règne un champ électrique. Vous avez de la lumière qui arrive là-dessus, elle crée des paires électrons-trous. Ici, vous avez un champ électrique, le champ électrique va balayer les trous et balayer les électrons et donner lieu à un courant. C'est tout bête. C'est la cellule photovoltaïque dont on va parler dans quelques secondes. Alors ça, c'est une représentation dite de diagramme de bande qui reprend le point de vue d'Einstein, de regarder l'énergie en fonction de la distance. Donc, qui sait ce que veut dire CCD ? Charge Coupled Device, ces transistors détectent des charges et transforment des photons en charges électriques, et ces charges électriques sont couplées par des dispositifs les uns avec les autres. Charge Coupled Device. Alors, le marché, il n'y a pas de mots pour le dire, il est absolument gigantesque. Le coût d'un transistor dans un CCD, c'est de 10-7 euros. Vous connaissez un objet moins cher que ça, le prix d'un transistor dans un CCD. Autre exemple d'application, la cellule solaire. Alors, c'est toujours le même principe, hein, c'est une jonction PN, la lumière du soleil arrive dessus, et ça crée un courant. Si vous achetez des cellules solaires, vous allez voir que dessus, il y a écrit rendement quantique. Comme quoi, le rendement quantique, le mot quantique, est même affiché, je l'ai vérifié, hein, chez Leroy Merlin. Donc, vous avez 15% de rendement quantique. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un rendement quantique. Alors, pourquoi il n'est que de 15% dans le silicium ? C'est parce qu'il y a un mauvais accord entre le spectre du soleil et la réponse du silicium qui est là. Oui, que c'est pas maximum au même endroit. Le silicium n'est pas le meilleur matériau. Mais évidemment, c'est de loin le meilleur marché pour faire des cellules solaires. Ce qui fait qu'avec un ensoleillement maximal de 1000 watts par mètre carré, si vous habitez l'équateur, eh bien, vous pouvez avoir à peu près 150 watts par mètre carré. Bon, alors, les recherches là-dessus, vous devinez bien ce que c'est évidemment d'augmenter ces rendements quantiques, et pour augmenter ces rendements quantiques, il n'y a pas de choix, il faudra changer de semi-conducteur. Alors, il y a des tas d'idées qui courent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, en utilisant ces semi-conducteurs, je vous parlais tout à l'heure de la carte IGN des semi-conducteurs, eh bien, on a cette carte qui permet d'adapter le gap du semi-conducteur au mieux à l'émission solaire. Il y a le germanium, l'arsénure de gallium, le GINP, il y en a plein d'autres. Et l'idée, on sait quasiment maintenant avoir des cellules solaires qui fonctionnent à plus de 60%, 100. Le problème, c'est qu'elle coûte une fortune. Donc le grand challenge, le grand défi qu'on a devant nous, ça va être d'avoir, l'idée, c'est d'avoir des semi-conducteurs qui se peignent au pinceau. C'est ça l'idée, pour avoir des prix compatibles avec des kilomètres carrés qui seront nécessaires pour nous fournir l'électricité du futur. Je vais maintenant parler des émetteurs de lumière. Émetteurs de lumière qui... alors là, vous venez de voir les CCD, vous venez de voir les cellules solaires. Les émetteurs de lumière, c'est les diodes électroluminescentes qui font partie de votre univers quotidien, mais qui, un vieux gars comme moi, et tient du miracle. Okay ? Quant au laser à semi-conducteur, je vous explique pas. Là-dessus, dans les briques de base que je vous ai définies, je vous rappelle, il y avait le formalisme de la mécanique quantique, il y avait la théorie des bandes, etc., et il y avait le puits quantique. Alors, je vous parlais de cercle vertueux. Le cercle vertueux, vous le voyez en place, vous le voyez en place tout de suite, c'est-à-dire vous avez la mécanique quantique qui vous donne de façon quasiment directe la révolution de la microélectronique et de l'optoélectronique. Des technologies sont développées pour fabriquer ces minuscules composants, et avec ça, on va se dire, tiens, on va faire des objets pour vérifier la mécanique quantique. Donc, hop, ces structures nous permettent d'élaborer des structures qui vont vérifier la mécanique quantique, qui permettent d'aller encore plus loin, et puis le cercle vertueux s'accélère. Bon, alors, le puits quantique est clairement né de la microélectronique, et le puits quantique est né des progrès énormes qu'on a fait dans les techniques de dépôt, dans ces monstres de milliards de transistors qui sont faits dans les usines maintenant. Alors, juste un mot, tiens. Qu'est-ce qui limite à l'heure actuelle la microélectronique ? Vous pensez que c'est la physique ? Pas du tout. C'est le coût d'une usine. C'est ce qui va... On est arrivé quasiment pas loin du point d'équilibre où il n'est plus intéressant d'avoir des technologies plus performantes parce que le coût des usines est supérieur à 10 milliards de dollars maintenant. Donc voilà un cas où l'économie vient modérer les progrès qui sont faits, en tout cas dans les technologies des semi-conducteurs. Vous allez le voir, la fréquence des horloges de vos microprocesseurs, vous avez dû le constater, commence à plafonner. C'est pas qu'on sache faire plus, c'est que ça coûte trop cher. Pour revenir à ces technologies extraordinaires, donc on savait déposer des couches avec des épaisseurs extrêmement précises. On avait besoin pour cela d'avoir des atmosphères ultra vides. Pourquoi avoir des atmosphères ultra vides ? C'est quand vous déposez des couches atomiques les unes sur les autres, et bien si vous avez de la pollution dans votre machine, certes, vous déposez un peu de silicium, de germanium, de gallium, mais aussi de la pizza que vous avez mangée à midi. Donc, évidemment, il faut des machines à très grand vide. Donc, ça a été... La technologie de l'ultravide est née donc de cette microélectronique et on s'est dit à un moment, on est capable de faire des objets qui font... on est capable de déposer une couche atomique. On est capable de fabriquer une couche atomique. C'est-à-dire qu'on est capable d'imiter la nature. On est capable de construire des atomes artificiels en déposant des couches atomiques les unes sur les autres. Alors ça, c'était la révolution donc du puits quantique. Alors voici un exemple qui commence un peu à dater. Ce que vous voyez, c'est un puits quantique d'arsénure de gallium, d'LGS. Alors vous voyez ici que c'est cristallin. Je vous parlais... Alors c'est une photo, L'une des conséquences de la microélectronique, c'est qu'on a développé des microscopes électroniques à très haute résolution qui permettaient de voir ce qu'on faisait. Parce que quand on commence à faire des transistors qui font 50 ou 60 nanomètres, il faut les voir. Donc on a commencé à développer, là, encore une fois, ce cercle vertueux. Donc être capable de voir ces colonnes atomiques. Vous voyez ici, ce sont vraiment des colonnes atomiques. Vous voyez ici qu'on est capable d'avoir des couches d'arsénure de gallium. On est capable de faire des choses qui font quelques couches. Là-dedans, on revient à Schrödinger, on revient à Einstein. Les électrons dans de telles couches, ils sont dans un puits de potentiel qui est là. Et ben, si vous avez, je vous rappelle que vos électrons sont des ondes, des corpuscules, des ondes, il y a dualité, ils ont une certaine longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez des ondes dans un tuyau d'orgue ? Et ben, vous avez un son précis. Et ben là, c'est la même chose, à condition que la taille du tuyau d'orgue soit de l'ordre de quelques longueurs d'onde. Ben là, c'est pareil, votre électron... Typiquement, dans la matière, on a vu tout à l'heure, il fait le nanomètre. Si vous êtes capable de faire des puits, on est capable, vous voyez bien, de quelques nanomètres, eh bien, l'électron ne va pas pouvoir prendre n'importe quelle longueur d'onde. Il va prendre la longueur d'onde de l'orgue. Il va prendre cette longueur d'onde-là, à peu de choses près. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir prendre toutes les énergies possibles. Donc vous allez créer des niveaux d'énergie, vous allez complètement recréer une sorte de nature artificielle dans laquelle vous créez des nouvelles formes de fonctions d'onde, vous créez de nouveaux domaines d'énergie, et ça c'est la révolution des lasers à semi-conducteurs, on va le voir tout de suite. Donc ce que j'ai montré ici, c'est la forme des fonctions d'onde des électrons sur son premier niveau d'énergie, sur son deuxième niveau d'énergie, comme dans l'atome d'hydrogène, vous avez fait un atome d'hydrogène artificiel avec votre petit mimine. À partir de là, on est capable de voir ce qui va se passer maintenant dans une diode électrode luminescente. Une diode électrode luminescente, c'est encore un autre objet que vous voyez dans votre vie de tous les jours. Vous avez ici, par exemple, de l'arsenide de gallium, ici, de la LGAS, qui vous fait une barrière de potentiel. Je viens de vous dire que les électrons étaient piégés sur leur niveau. Alors, on suppose, et ça on sait le faire, qu'on s'est dopé de N ici, donc il y a plein d'électrons ici, il y a plein de trous ici. Vous appliquez une tension, les électrons tombent dans le puits quantique, les trous tombent dans le puits quantique, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se recombinent et émettent de la lumière. C'est bête comme chou. Pas à faire, pas à faire. Mais c'est en tout cas bête comme chou. Ça, c'est de l'émission spontanée, c'est-à-dire que spontanément, les électrons qui sont là et les trous qui sont là, ils se voient, ils se disent marions-nous, et ils font un beau bébé qui est le photon dont l'énergie est égale à cette distance en énergie. Alors ça, c'est juste pour vous montrer comment fait la microélectronique. On va passer un point extrêmement important, parce que ça, vous allez vivre cette révolution. C'est pourquoi est-ce que les diodes électroluminescentes, quelle est leur supériorité ? Eh bien, voyez bien que dans la diode électroluminescente, une paire électron-trou donne un photon. Donc, vous avez, a priori, on va dire, un coulomb, un ampère, va vous donner un watt. D'accord ? Alors que dans une diode électroluminescente, ce n'est pas ça du tout. Vous chauffez, puis si vous êtes vénard, ça va vous faire de la lumière, mais vous savez bien que ça vous fait 95% de chaleur. D'accord ? Donc la grande différence entre la LED et l'ampoule, c'est ce qu'on appelait avant la lumière froide, c'est que la lumière est émise non pas parce que vous avez chauffé votre matériau et vous avez déposé quasiment le tout en chaleur, mais c'est bien parce que vous avez transformé réellement, en alchimiste moderne, une paire électron-trou en photon. Alors, on comprend bien donc maintenant comment fonctionne la diode électroluminescente. Donc, ça émet des photons du côté du gap du matériau. Je ne vais pas vous dire tout leur intérêt. Les applications, c'est ça, par exemple. Ce sont les commandes à distance, les APET, c'est les réseaux locaux de télécom, les panneaux d'affichage. Et je vais vous parler, évidemment, de la révolution de l'éclairage. Je vais vous raconter une histoire absolument extraordinaire. C'est une histoire que les gens de ma génération ont vécue, qui est celle des diodes bleues. Donc, comme je vous le dis, les diodes électroluminescentes permettent de faire des commandes à distance, et surtout, elles permettent de faire des tableaux d'affichage, c'est le gros du marché, et plus tard, de remplacer les ampoules électriques. Alors, on savait, dans les années 80, vous voyez comme je suis vieux, on savait faire ces semi-conducteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, on savait bien faire le sélénure de zinc, on savait bien qui faisait du vert, on savait bien faire le GAP, le phosphure de gallium, qui faisait du rouge, on savait faire des saloperies comme du GINP qui faisait du... On avait toutes les couleurs, sauf le bleu. On était dans les années... en tout cas dans les années 70, c'était comme ça. Alors les gens se sont dit, le bleu, c'est une affaire de quelques semaines. Le problème, c'est que on découvre surtout en 1974 qu'il y a un matériau, que le nitrure de gallium, qui émet du bleu. On bombarde avec de la lumière très énergétique ou des électrons, il émet du bleu. On se dit, voilà, on a notre source de bleu, c'est quasiment fini. 74-84, on se dit, ah oui, mais il faut quand même le doper. Je vous rappelle, un semi-conducteur qui n'est pas dopé, c'est un bout de bois, ça ne sert à rien. Donc il faut le doper. Eh bien, petit problème, on n'arrive pas à le doper de type P. Alors, les sommes mises là-dessus sont absolument colossales, parce que les gens savent bien que c'est un marché gigantesque. Donc, on cherche pendant 10 ans, au bout de 10 ans, il y a un malin qui se dit, c'est qu'il y a une impossibilité théorique. C'est toujours ce qui se passe. Donc, il écrit un article théorique sur l'impossibilité de doper le nitrure de gallium. Il était à peu près sûr que ça passerait pas inaperçu, mais en tout cas, que ça clorait le sujet. Je ne vous dis pas le nom du gars, c'est pas bon pour lui. 84-93, fin des recherches sur le nitrure de gallium. Mais, toujours le camp de petit bonhomme chez Astérix, il y a un type, Nakamura, qui n'a pas lu l'article. Il est au Japon, il travaille pour une sorte de mécène qui fait des écrans de télévision en phosphore. Il est riche à crever, vous imaginez, il fait tous les écrans de phosphore du monde. Donc il peut se permettre d'avoir un petit labo. Et donc il nourrit, entre 84 et 93, Nakamura qui va, à la japonaise, tout essayer, tout. Et un jour, il s'aperçoit qu'en dopant le nitrure de gallium avec du magnésium sous un flux d'électrons, il faut y penser, je ne vous dis pas peut-être pendant une nuit de pleine lune, presque, eh bien ça le dope de type P. Alors bon, ça a été une, une découverte absolument énorme, et en vraiment, ça on l'a vécu, c'est-à-dire que entre l'article et la production, il a dû se passer 3-4 ans, quelque chose comme ça. Bon, le marché mondial, maintenant, est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Hein, c'est voici Nakamura qui a fait cette découverte. Alors, juste pour vous dire comment votre monde a changé. Vous êtes trop jeune, mais tous les gens qui ont à peu près mon âge ou sont ces eaux-là, pour eux, les panneaux d'affichage, c'était jaune et c'était rouge. Toujours. Et puis, vous considérez ça comme normal. Ben, nous, la première fois qu'on a vu ça, les bras nous en sont tombés. D'accord, c'est l'irruption des diodes bleues. Alors, je ne connais pas la morale de l'histoire sur la recherche, le financement de la recherche. Je ne crois pas qu'il y ait réellement de morale, sauf que tu vas faire quelque chose dans la morale de la science la prochaine fois. Je ne sais pas s'il y a une morale, mais c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Et évidemment, ce que vous allez vivre, c'est le remplacement de tout l'éclairage qui est à l'heure actuelle, d'abord par l'éclairage par fluorescence hein, de Philips, et puis évidemment les diodes électroluminescentes qui sont encore qui viendront après. Bon, alors là ça, j'aime bien cette histoire. C'est encore une histoire à la Papa Einstein. On l'attend, c'est renversement de point de vue où vraiment on ne l'attendait pas, où personne ne l'attendait. Vous avez vu ce que c'était que l'absorption. Maintenant, vous voyez bien, un électron qui est sur son niveau d'énergie, il y a un photon qui arrive, il l'excite sur un niveau supérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les ponts et chaussées pour comprendre ça. Ensuite, l'émission spontanée, on a bien vu, on a mis un électron sur son niveau énergétique, il va retomber spontanément ou se recombiner avec le trou, émettre de la lumière, ça va, basta, on a compris. Alors qu'on lui demandait rien. Personne ne lui demandait rien. Personne ne pensait à la question. Il n'y avait aucune raison pour que les gens pensent à ça. Einstein s'est dit, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un électron sur le niveau supérieur et qu'il y a un photon qui arrive ? Personne ne lui demandait rien. Il se posait cette question seulement pour savoir s'il était comme ça. Il était capable de rendre cohérent le spectre du camp de Mars de Max Planck et la théorie de Boltzmann. C'était les équations de Boltzmann. C'était son seul truc. Il faisait ça en réfléchissant. Et en réfléchissant à ça, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Le photon arrive et probablement, il va stimuler. Il va stimuler l'émission. C'est-à-dire que le système va non seulement cracher le photon incident, mais va cracher un photon supplémentaire, qui est le photon stimulé par la transition. 1917. Article, encore une fois, qui a été regardé avec politesse, c'était quand même Albert Einstein, mais encore une fois, personne ne s'intéressait à la question, ça n'avait qu'un intérêt, bon, certes, il arrivait à rendre cohérent la théorie de Boltzmann et la théorie de Planck, mais ça n'intéressait personne. Sauf que, le temps passant, les gens se disent, mais attendez, si c'est vrai, imaginons que nous avons un système dans lequel nous avons justement cette inversion de population, c'est-à-dire que nous avons non pas des... Oui, pourquoi ça n'intéressait personne ? Parce que les électrons, je vous rappelle, sont paresseux, ils sont comme vous et moi. A priori, ils sont leur niveau de plus basse énergie. D'accord ? Donc la probabilité pour qu'ils soient sur leur niveau de plus haute énergie qu'ils reçoivent un photon, ça ne va pas vous réveiller un dimanche. Bon, petit à petit, les gens se sont dit, mais si, il doit y avoir des moyens quand même de mettre des électrons sur des niveaux supérieurs. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, un photon va arriver, va donner 2 photons, 4 photons, 8 photons, il va y avoir une avalanche, et il va y avoir, si vous êtes intelligent, il va y avoir de l'amplification. Et on sait que quand il y a de l'amplification, eh bien, il y a de l'oscillation. J'aime bien ce que j'appelle, moi, le diagramme de papillon dans mon enseignement. C'est que si vous imaginez, regardez comment évolue l'intensité de l'onde en fonction de la position dans l'amplificateur, eh bien, l'onde est amplifiée par le milieu amplificateur, et une petite partie qui est réinjectée, une partie qui sort sous forme de lumière, qui est réinjectée, et puis si, dans l'aller-retour, elle a gagné plus d'énergie qu'elle en a perdu, le système transforme cette amplification en oscillation. C'est comme ça que marchent tous les oscillateurs. Il n'y a pas grand mystère. Voilà. Donc, les gens se disent, on va être capable de faire un oscillateur optique. On connaissait les oscillateurs mécaniques, on connaissait les quartz, on connaissait les horloges, ça fonctionne sur le même principe. Mais quelque chose qui fonctionne dans le domaine optique, c'était pas donné. Et en utilisant donc cette émission stimulée, les gens se sont dit, on va y arriver. Alors, le premier qui a eu l'idée d'utiliser les semi-conducteurs pour ça, c'est von Neumann. Qui ne connaît pas von Neumann ici ? Non, soyez... Bon, von Neumann est un des plus grands génies du XXe siècle, un des créateurs de la théorie des ondes de choc, un des inventeurs de l'ordinateur, pas mal, hein, un des hélas, père de la bombe à hydrogène, enfin, un des cerveaux les plus hallucinants du XXe siècle. Donc John von Neumann, comme ça en passant, entre ses multiples occupations, parce qu'il s'occupait en même temps des ondes de choc dans des tubes, enfin, il faisait ça probablement le samedi entre 15h30 et 15h45, il se dit, on devrait utiliser les semi-conducteurs. Là aussi, personne ne lui demandait rien. En plus, ce n'était pas son boulot. Hein. Ce n'est pas un homme des semi-conducteurs. Donc les gens se précipitent sur cette idée, et donc ils se disent, si je pompe suffisamment fort, si je mets suffisamment d'électrons et suffisamment de trous dans notre structure, dans notre puits quantique, elle va se mettre à amplifier, on va avoir un laser. Alors, l'idée, je vous rappelle, 1917, personne ne demandait rien à Albert Einstein. Il y a Kessler qui arrive, qui montre comment est-ce qu'on peut créer ces états excités. Von Neumann dit on peut l'appliquer aux semi-conducteurs. 52, les laboratoires vont se déchirer, parce que vous imaginez le marché qu'il y a derrière. Et ce qui est drôle, c'est que cette histoire qui s'est terminée en 1917, elle s'est terminée dans trois laboratoires à 10 heures près au même moment. Au même moment, à IBM, à General Electric et à Bell Labs, à 10 heures près, ils obtenaient l'effet laser dans l'arsenide de gallium. Incroyable, non ? Pour une histoire qui avait commencé en 1917. J'aime beaucoup cette histoire vraie. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que les trois inventeurs, donc Anatan, je ne me rappelle jamais de leur nom, donc qui ont fait laser l'arsenide de gallium, les trois, vous ne pouvez pas les mettre dans la même pièce. Ils sont 85 ans, on pourrait imaginer le pardon des offenses, l'épée transformée en soc de charrue. Pas du tout, ils se haïssent encore, et tous prétendent avoir découvert le laser à semi-conducteur, qui est pourtant une histoire qui avait commencé 50 ans auparavant. Voilà, alors vous connaissez les caractéristiques des lasers à semi-conducteurs. Avant tout, deux le pointeur. Bon, on ne peut pas franchement dire que ce soit une révolution, même si c'est agréable. Mais évidemment, les télécoms et toute la civilisation du jeu vidéo et du stockage de l'information. Donc ici, vous connaissez bien les lecteurs de disques compacts. Juste un point, quand vous êtes passé du rouge au bleu, vous avez multiplié par 4 votre capacité de stockage a priori, en fait par beaucoup plus, parce que maintenant les gens sont malins, ils stockent en profondeur, vous avez multiplié par à peu près entre 20 et 30 les capacités de stockage, le Blu-ray, vous connaissez bien, c'est dû à la découverte de Nakamura. Les télécoms, vous connaissez tous, pourquoi est-ce que les télécoms optiques, comment est né le télécom optique? Il est né lorsqu'on était capable de faire rentrer des photons dans un machin qui fait 4 microns, qui va vous permettre de distribuer la lumière à travers l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique. Et évidemment, il n'y a qu'un laser qui permet de focaliser la lumière dans ces fibres optiques, les fibres optiques étant une autre histoire. Je vous ai juste dit où est-ce qu'on est, où on était il y a encore quelques temps, parce qu'on est bien mieux que là. À l'heure actuelle, en utilisant ces lasers à semi-conducteurs, on est à peu près au terabit. On est à l'heure actuelle couramment en terabit sur 3000 km, c'est-à-dire que vous envoyez couramment l'Encyclopédia Universalis en 1/10 de seconde, on fait mieux maintenant. Les frontières, on va s'arrêter là. Je vous ai dit, c'était un cercle vertueux. Ce cercle vertueux, il va continuer, c'est-à-dire que on continue à faire en exploitant, et je peux vous dire tous les jours, la mécanique quantique et ses paradoxes. Les chats de Schrödinger, l'intrication, ces trucs, c'est masterminding, comme disent les anglo-saxons, bluffant au point de vue intellectuel. On commence maintenant à en faire des objets commerciaux. Par exemple, l'intrication, j'ai hélas pas le temps de vous l'expliquer. Les banques suisses commencent à utiliser l'intrication quantique pour donner la sécurité à leurs informations. Alors, comme autre frontière, je vais rapidement, il y a la nanoélectronique. On va rentrer dans les dizaines, les centaines de milliards de transistors par composant. Les nouvelles gammes de longueur d'onde, je vous ai beaucoup parlé d'optique, mais on est en train de l'optique, elle s'arrête du côté d'une dizaine de microns, l'infrarouge. On commence maintenant à aller dans cette frontière, cette terre inconnue, qu'on appelle les terahertz, qui est une terra incognita, entre la lumière et les ondes radio. Il y a toute une zone inconnue encore à découvrir, qui, grâce à nouveaux composants qu'on appelle les lasers à cascade quantique, eh bien, nous permettent, vous voyez, encore une fois, ce cercle vertueux, la mécanique quantique qui a donné naissance à ces composants, qui redonne naissance à des nouveaux sujets. Les attosecondes, en utilisant des mises en phase de laser, on est maintenant capable de créer des impulsions d'informations qui font donc 10^-18 secondes. On va être bientôt capable de faire la photographie d'un électron tournant autour d'un atome d'hydrogène. Je les exawatts, parce que vous imaginez que quand vous crachez un joule en une attoseconde, ça fait chaud. On est typiquement du côté de 10^22, 10^23 watts par centimètre. 10^22, 10^23 watts, c'est 10 000 fois la puissance globale consommée par les États-Unis. Voilà, c'est à peu près ça. Mais bon, évidemment, dans un temps très court. Donc, dans lequel on va être capable de créer de la matière à partir du vide. Je pourrais continuer sur les états intriqués et la cryptographie quantique. Je vais m'arrêter là, comme je vous l'avais promis. Juste donc pour conclure, ce que je vous avais dit, c'est que la mécanique quantique, qui est ce corpus, vous voyez, ça avait l'air tellement abstrait, tellement on voyage dans des espaces de L2, des espaces de Sobolev, on projette, ça a l'air complètement fou. Et pour l'interprétation est vraiment à se tirer les cheveux. Et pourtant, ce corpus abstrait a donné naissance à le bouleversement technologique que vous vivez et que vous continuerez à vivre encore pendant très longtemps. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, c'est le cercle vertueux qu'il peut y avoir, qu'il doit y avoir entre ces sciences extrêmement absconses, extrêmement fondamentales, et leurs applications. Et on voit bien comment elles se nourrissent l'une de l'autre et elles continueront à se nourrir les unes les autres. Et le dernier point, j'aimerais répéter cette formule de La Fontaine, qui est merveilleuse, je vous la répète, hein. Laissez dire les sots, le savoir à son prix. Je vous remercie.
C'était Emmanuel Rosenscher, directeur scientifique de la branche physique à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA. Il s'exprimait sur la mécanique quantique en question. Thème d'une communication réalisée lors des conférences inaugurales de l'École nationale des ponts et chaussées en septembre 2009 et événement auquel Canal Academy s'est associé. Restez à l'écoute des retransmissions de ces conférences et téléchargez les interventions d'Alain Profiance sur notre ancêtre commun avec la mouche et l'intervention d'Yves Jeanneret sur les savoirs de la communication entre Église romane et publicité pour spaghetti. Merci de votre écoute et à bientôt sur canalacademy.com.